France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il dit qu'il a fait ce film d'abord pour lui, parce qu'il faut y penser à cette fin inévitable. Le dernier souffle, le 20e long métrage de Costa Gavras, regarde donc la mort dans les yeux. Il sera mon invité à partir de 13h. Mais on commence par le plateau critique du jour aujourd'hui. Deux films qui entendent déconstruire le mythe américain et le cinéma qui va avec. The Brutalist de Brady Corbett et Les Damnés de Roberto Minervini. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Antoine Guillot, producteur de Plan Large, le samedi, c'est de 14h à 15h sur France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Muriel Joudé, critique au journal Le Monde. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. C'est le film de tous les superlatifs, nommé 10 fois aux Oscars, récompensé 3 fois aux Golden Globes, Lion d'argent du meilleur réalisateur à Venise. Il dure 3h35, comporte un entracte de 15 minutes et a été tourné sur pellicule. Si vous ne vivez pas sur Mars, vous avez sans doute compris que je parle de The Brutalist, 3e long métrage de Brady Corbett. Il suit la destinée de Laszlo Toth, un architecte juif hongrois survivant de la Shoah qui va tenter de reprendre le cours de sa vie aux États-Unis. Dans le rôle de cet homme douloureux et brillant, Adrian Brody, sa femme est interprétée par Felicity Jones. Et on commence par un avis rapide, d'abord Muriel Joudé.
Pour moi, c'est une tartine d'auteur, d'auteurisme plutôt. Voilà.
Antoine Guillot.
Comme c'est écrit sur les affiches, c'est un film monumental pour le meilleur et pour le pire.
Et on va écouter tout de suite la bande-annonce de The Brutalist de Brady Corbett.
There's him. He's alive. What? C'est de vous,
n'est-ce pas?
Oui.
Tous?
Oui.
Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie?
Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il y a eu une guerre, et pourtant, la plupart de mes projets ont survécu. Mais mes bâtiments ont été conçus pour résister à l'érosion des rives du Danube.
Je vous ai fait venir ici ce soir pour que nous tournions notre regard vers l'avenir.
Qu'est-ce que tu en dis?
C'est inhabituel. Même pour toi.
Vous parlez parfaitement notre langue. Dans ce cas, pourriez-vous aider votre mari à se débarrasser de son accent de cireur de chaussures? Pardon, pouvez-vous me rendre ma pièce, s'il vous plaît?
On n'est pas les bienvenus ici.
Tu parles de qui, alors?
Des habitants de ce pays. Ils ne veulent pas de nous ici.
The Brutalist. Muriel Joudé, j'ai l'impression que vous prenez le contre-pied de la presse qui a l'air quasi unanime sur ce film. Pour vous, tartine d'auteurisme, elle vous dit.
Oui, je sais pas si je prends le contre-pied, mais en plus j'ai regardé le film vraiment avec intérêt, comme je pense beaucoup de gens vont le regarder, c'est-à-dire, enfin, l'auteurisme revient. Vraiment, je n'étais que bienveillance et amour. J'ai regardé vraiment jusqu'au bout le film avec cet intérêt-là et aussi je me suis intéressée à ce que raconte Brady Corbett parce que j'ai l'impression que dans le cas de ce film, le storytelling, donc le récit autour du film, est à mon avis le vrai sujet. C'est-à-dire le réalisateur et sa femme scénariste qui ont mangé des biscottes pendant 10 ans. Enfin, pour écrire ce film, le format Vista Vision, donc qui est ce format horizontal, la pellicule, le fait que voilà, ils se sont sacrifiés et qu'ils ont fait ce film qui est un film arraché au système, sauf que quand on est devant le film, donc on attend toujours cet objet absolument, cette sorte d'ovni, un peu comme Mégalopolis, hein, ces deux films qui par ailleurs ne parlent que d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'architecture comme métaphore du geste d'auteur qui surgit, comme vision d'auteur qui surgit de nulle part, qui ne doit rien à personne et qui s'arrache contre les capitalistes véreux et les dirigeants des studios. Donc c'est un film qui parle sans cesse de ça, mais qui finalement, pour moi, ne fonctionne qu'à des effets d'intimidation. que ce soit son format de 3h30 avec cette interlude de 15 minutes, que ce soit sa musique, que ce soit aussi son sujet, c'est-à-dire ce mélange entre les camps de concentration, l'architecture, le rêve américain, mais en même temps son envers. Bref, on est vraiment appelé à être intimidé d'un bout à l'autre, c'est la grand-messe de l'auteurisme. Sauf que pour moi, le film accouche d'une toute petite souris qui n'invente rien, ni formellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour moi, il y a presque pas de grande idée, non, il n'y a pas de grande idée de mise en scène. J'essaie de sauver quelque chose, mais non, je me suis pas retrouvée. C'est-à-dire que ce geste ne vaut que si à un moment il y a quelque chose qui s'invente et qui est inédit à la fois formellement et narrativement. Donc formellement, ça va pas. Et narrativement, on est quand même sur une sorte de reprise de grandes figures, du cinéma américain. Donc, le rêve américain et son envers, qui est en fait un grand thème qui traverse toute l'histoire du cinéma. Et j'ai beaucoup pensé à America d'Elia Kazan, mais aussi au Parrain 2, Asie immigrante de James Gray, voilà, Ellis Island, c'est toujours quelque chose d'assez fascinant dans le cinéma américain, et même pour des spectateurs non américains, c'est toujours fascinant que de voir ces trajectoires-là. Les capitalistes véreux, la trajectoire ascensionnelle, mais qui va être finalement avortée. Tout ça, c'est déjà voilà, on l'a déjà vu. Et surtout, je pense que Brady Corbet pense beaucoup à quelqu'un qui est Paul Thomas Anderson. Donc moi, j'ai eu un peu l'impression d'un film qui date d'il y a 10 ans, qui est fait aujourd'hui et qui est finalement victime d'une chose, c'est-à-dire que comme l'industrie américaine est malade, je pense que le grand geste d'auteur flamboyant, inventif, ne peut qu'être victime de cette industrie malade et finalement que le film n'est pas à la hauteur de ce qu'il promet sans cesse.
Antoine Guillot, avez-vous les mêmes préventions par rapport au film ?
Oui, enfin c'est un film qui en impose effectivement, mais qui met en scène sa monumentalité. C'est-à-dire que on a précisément cette impression d'une volonté de restauration du cinéaste tout puissant qui aurait été brisé par Hollywood, qui aujourd'hui ne produit que des produits précisément. Mais on voudrait voir apparaître. Effectivement, on est ravi de voir apparaître un auteur qui contrôle tout, mais pour nous faire une forme d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour réinventer quelque chose. À quoi bon refaire parce qu'on remonte effectivement America, on pourrait y prendre comme modèle, il était une fois en Amérique, de Léon, on pourrait remonter encore plus loin, parce que je pense que l'horizon ultime, c'est Citizen Kane. Mm-hmm. Bon, alors Brady Corbet est un peu vieux maintenant pour faire Citizen Kane, parce qu'il doit avoir 35 ans, alors que Orson Welles l'avait fait à 25 ans. Et il y a effectivement ce côté d'un film déjà vieux. C'est étonnant. Alors pour faire toute cette monumentalité, non seulement parce qu'on va filmer des gros blocs de béton en train de s'ériger, on va en rajouter dans la mise en scène. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait 3 couches de peinture avec la sous-couche en dessous. Donc le geste qui revient régulièrement de mise en scène, hein, pour le coup, c'est de raconter une histoire puis de faire une superposition d'un moment légèrement décalé de la même histoire, tout en montrant en parallèle la construction de ce bâtiment et en mettant en plus des images d'archives dont on ne sait si elles sont vraies ou fausses, vantant l'Amérique et notamment la Pennsylvanie comme grande terre industrielle, terre de décision, etc. Ça, c'est vraiment le principe Citizen Kane, c'est-à-dire on met des vraies fausses images d'archives, on va raconter un rêve américain et son envers, et ça revient régulièrement comme un procédé, c'est-à-dire regardez qu'est-ce que je fais du cinéma complexe avec plusieurs couches que vous allez devoir interroger, vous demander qu'est-ce qui se cache derrière les images. Et en fait, à regarder le film, on se rend compte qu'il se cache pas grand chose derrière ces images. C'est-à-dire qu'il y a cette métaphore de cette construction extrêmement impressionnante, mais dont on nous dit que ce qui est important, c'est les souterrains. C'est ce qui se passe en dessous, c'est ce qui circule. Sauf qu'au bout du compte, il n'y circule pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on voudrait interroger une sorte de mystère qu'il y aurait derrière ces images, et le film ne cesse d'expliciter ses propres zones d'ombre, ses propres mystères, jusqu'à la métaphore qui est lourdement explicite des rapports entre l'art et le capitalisme, entre le commanditaire et l'artiste, qui serait profondément un viol. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire ? On va montrer un viol. On ne sait pas trop pourquoi il a cette obsession de ces hauts plafonds, de la taille exacte qu'il doit avoir. À la fin, on va nous expliquer pourquoi, quel est le sens de cette œuvre, comme si on nous donnait tout en main, tout le kit qui est là pour expliciter ce qu'on voudrait du mystérieux. Parce que, effectivement, prendre à rebours un film que je pense que les spectateurs qui iront voir The Brutalist ne connaissent pas forcément, mais qui est un peu mythique, et Le Rebelle de King Vidor, qui était là, pour le coup, l'ascension, vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au dernier plan d'un homme vers la virilité, vers le vers le ce qu'il peut avoir de plus oui ben voilà de plus priapique de phallus dans l'érection. Là c'est un ouais. film plutôt sur la détumescence, sur le traumatisme sexuel engendré par la Shoah. Tout ça pourrait être intéressant en soi, sauf qu'à chaque fois ça nous est dit, ça nous est explicité. En fait c'est un film qui prétend vouloir montrer la construction de quelque chose et qui ne fait que parler tout le temps, sans doute parce que son petit budget, enfin 10 millions de dollars c'est quand même pas mal, mais pour un film américain c'est un petit budget, le forcer en fait régulièrement à revenir à juste des scènes où on blablate quoi.
On peut revenir quand même rapidement sur la performance d'Adrien Brody qui est tout le monde dit qu'il va avoir l'Oscar du meilleur acteur. Muriel Joudé.
Je trouve pas les acteurs formidables, et ça c'est quand même un problème, c'est-à-dire que pour moi le cinéma américain c'est au moins les acteurs sont impeccables. C'est un peu pour moi une sorte de spectre comme ça. Je l'ai pas particulièrement regardé, ce qui est quand même un problème pendant 3h30. De même que Guy Pearce. Enfin, c'est très bizarre. Mais pour moi, les acteurs sont peut-être écrasés par la machine du film. Et c'est vrai que Antoine a dit le mot le produit. C'est-à-dire que on est dans une industrie qui vend des produits et au lieu de films. Et pour moi, ce film est un produit ou alors quelque chose d'une sorte d'auteurisme réduit à une sorte de parc d'attractions. Et je pense que c'est comme ça que ça me rappelle un peu les années 50 dans les États-Unis, aux États-Unis, à Hollywood, quand la télévision menaçait le cinéma, sauf qu'aujourd'hui c'est les plateformes, et du coup il fallait faire du grand spectacle au cinéma, de la grande forme et des très longs films pour rappeler la distinction, ce qui distinguait le cinéma de la télévision. Et je pense qu'on est exactement dans ce moment-là, mais même en France, hein, avec L'amour ouf et tout ça, c'est-à-dire qu'il faut un moment en avoir pour son argent, et vu le prix du ticket, il faut que les films fassent la durée de films. Et donc là, on a l'attraction. Voilà, on a un peu toutes les attractions, cinéma français, cinéma d'auteur, Marvel. Et pour moi, The Brutalist remplit cette case. Et puis, sur la narration, je suis tout à fait d'accord avec Antoine, c'est-à-dire que c'est un film qui nous explique tout, qui dit un peu au spectateur, bon, bah, crée votre propre mystère. Et je pense que c'est là que, pour moi, il est à la fois donc, aussi victime de ce qu'est devenu le scénario au cinéma, c'est-à-dire que j'ai l'impression moi, que plus personne ne fait confiance au spectateur, que moi je trouve la fin terrible, je vais rien raconter sur la fin, mais moi si je suis aussi contre le film, aussi énervée que contre le film, c'est à cause de sa fin. Je trouve qu'elle est d'une bêtise vraiment horrible. Enfin, j'étais vraiment extrêmement choquée que finalement le fin mot d'histoire ce soit ça. Antoine, voilà. je vais rien dire dessus. Ouais,
c'est ce qu'on appelle un scénario en béton, quoi. Ouais, le béton étant un des enjeux du film. Et d'ailleurs, Brady Corbett et sa co-scénariste et épouse sont tous les deux au départ des ouvriers du scénario. Ouais. Et ils ont vraiment ouvragé leur scénario. Mais
ils l'ont fait à deux, voilà.
En le bétonnant au maximum. Ce qui est très curieux d'ailleurs pour un film qui veut s'inscrire dans l'architecture brutaliste, donc dans son minimalisme, dans son côté épuré. C'est qu'en fait, c'est un film qui joue le baroque en permanence, qui en rajoute de partout, y compris dans le jeu des comédiens. C'était la question que vous posiez, Marie. Adrien Brody capitalise sur le rôle de sa vie qu'est The Pianist, donc c'est un peu la suite de The Pianist. Et alors, il veut jouer celui qui sort du camp de concentration, que tout le monde il dit « Ah, mais je suis moche », etc. Il est évidemment d'un sexy total, il a les pectoraux gonflés comme s'il avait fait 2 ans comme s'il avait passé sa déportation à soulever des poids, mais c'est embarrassant.
Oui, c'est très gênant.
C'est très gênant. Et puis surtout, il y a un gros problème des personnages secondaires. C'est-à-dire qu'on a tous les clichés possibles du bon noir sympa qui est joué par Isaac de Bancolet, le marbrier italien, c'est sidérant. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils se sont concentrés manifestement en voulant complexifier les deux rôles principaux dans l'antagonisme, ils ont pris toutes les ficelles possibles de caractérisation facile et embarrassante du personnage secondaire. Donc c'est un film qui est très contradictoire, puisqu'il joue cette grande œuvre, cette grande monumentalité. Mais au bout du compte, c'est un peu chipouné, quoi.
C'est chipouné, c'est adorable. The Brutalist, Brady Corbett. Antoine, c'est l'heure de votre coup de cœur de la semaine et il nous emmène en Corse.
Oui, encore une bonne nouvelle venue de Corse. On n'avait pas vu vraiment venir cette vague incroyable de films corse. Ça devient un genre en soi, après Thierry Peretti et Julien Colonna, après Son Image et Le Royaume. Voilà le Mohican. Mohican, alors, comme son titre l'indique, on est forcément à nouveau en Amérique, puisque c'est un western néo-fordien. On pourrait dire ça sur l'histoire d'un homme, c'est marqué là encore sur les affiches, c'est l'homme qui dit non, c'est le dernier des Mohicans, c'est le dernier berger qui fait paître ses chèvres sur une falaise avec une vue imprenable sur la mer qui évidemment excite les convoitises et lui va dire non à une offre qui ne se refuse pas normalement et il va pas à partir de là partir en cavale. Et c'est ce que je trouve une des choses... Enfin, il y a deux choses formidables dans ce film. Il y a d'abord la manière de montrer comment on circule en Corse. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller en Corse un jour, mais si vous faites la route du littoral, c'est encombré de touristes de partout, vous ne pouvez pas avancer. Quand vous êtes un natif du cru, rien que pour aller vendre ses fromages au marché, c'est un peu compliqué. Et ça montre aussi comment ça circule vers l'intérieur. Donc il va filmer beaucoup, un peu comme dans The Swimmer, le film de Franck Perry, comment est-ce qu'on passe d'un jardin à l'autre, par exemple, d'une villa, d'une piscine. Et le film va aller de plus en plus vers l'intérieur de la Corse. Donc pour ce film qui est filmé en cinémascope, hein, ouais, Western oblige. Au départ, ça va très bien avec le littoral qui est tout plat. Et plus il monte dans les montagnes, plus sa vision même est oblitérée par des verticalités qui l'enferment. Ça, c'est assez extraordinaire. Et puis, quand je parlais de Western néo-fordien, c'est aussi comment un homme devient une légende à son corps défendant. C'est-à-dire que à partir du moment où il s'enfuit, tout le monde s'empare de son histoire, notamment les réseaux sociaux. Il montre aussi très bien comment il y a un nouveau militantisme corse qui passe par cette invisibilité des réseaux sociaux. Et il va devenir littéralement une image au pochoir, comme on en voit là encore beaucoup sur les routes corses, des héros locaux, et qui va devenir sujet de légende et de chansons. Et voilà, le tout portré par un Alexis Mananti qui a redécouvert ses origines corses et avec ce corps complètement massif, mais qui est tout sauf un super-héros, c'est-à-dire qu'il est très mauvais dans les scènes d'action, il se débrouille avec les choses du coin pour se défendre, une pierre, une pioche, tout ce qu'il peut, mais il est de plus en plus blessé aussi par sa cavale, et ça c'est très très beau à voir. Voilà. Le Mohican de Frédéric Farrucci.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
La guerre sans panache, sans charge héroïque, mais avec l'ennui et la peur, c'est ce que nous montrent les damnés de Roberto Minervini. Et c'est en pleine guerre de sécession que le réalisateur italien a choisi de poser sa caméra et surtout de perdre ses hommes, une compagnie de volontaires de l'Union du Nord donc, égarés dans l'hiver du Montana. Jusqu'ici réalisateur de documentaires, Minervini conserve ici son goût pour le réalisme et une certaine forme d'austérité. On commence avec un avis de l'un et de l'autre, Antoine Guillot.
Je trouve que c'est une très belle manière de sonder l'âme de l'Amérique. Il réussit tout ce que Brady Corbett échoue à faire.
Marie Ajoudé.
Égaré au milieu de ce film, exactement comme les soldats.
Comme les soldats.
Ouais.
On écoute la bande-annonce des damnés.
This land has it all. I think it'd be a great life, raise a family. I'm looking forward to that day.
We're running low on rations. We don't waste it here.
Our troops are down in New Mexico. It's gonna take them at least 2 weeks to get up here.
2 weeks.
How old are you?
16.
Shot one before?
Yeah.
And what have you shot?
Rabbits.
We need to hold the line. Our guys will catch up with us.
Hear the robin? My aunt used to say when you hear a robin, everything's gonna be okay.
Les damnés de Roberto Minervini, Antoine Guillot. Alors, on est en pleine guerre de sécession, on est dans l'Ouest, le Grand Ouest américain. Faut pas s'attendre quand même à voir un western tel qu'on peut l'imaginer.
Oui, alors la bande-annonce qu'on a entendue est un peu menteuse, on dira. Il n'y a pas tant d'action que ça, et c'est précisément un des intérêts du film. C'est qu'il va vous montrer que la guerre, c'est, je sais pas, 99% d'attente, et puis tout d'un coup, il y a une action rapide à laquelle on ne comprend rien, et puis il y a un avant, il y a un après. Et c'est comme ça, en fait, piste qu'il a expliqué le film à ses comédiens, qui sont tous des comédiens amateurs. Il leur a pas donné le scénario, il leur a juste dit, bah voilà, il y aura un avant, il y aura un pendant et il y aura un après. Et à partir de là, il va filmer ses personnages, à la fois comme si c'était ceux de 1861, 62, je ne sais plus en quelle année c'est censé se passer, et les Américains d'aujourd'hui qu'ils sont. Il a tourné dans le Montana, il a pris des gens du cru, il a pris aussi des personnes qu'il avait filmées dans ses documentaires précédents, qui eux étaient tournés dans le sud des États-Unis. Donc c'est cette marge-là qu'il filmait à l'époque, que ce soit les camés de Louisiane, les fous d'armes à feu du Texas, etc. Il les a transposés là-bas, de même que ces personnages se retrouvent dans cet Ouest auquel ils ne comprennent rien, qui est plein de promesses. Effectivement, on se dit, il y aura de l'or, il y aura tout ça. Et en fait, dans lequel ils ne voient rien, ils ne comprennent rien, mais où ils parlent. Et les dialogues du film, pour le coup, sont complètement improvisés. C'est-à-dire qu'il les a vraiment mis dans des situations. Et ce sont des Américains d'aujourd'hui qui parlent de leur rapport au territoire, à la religion,
aux armes.
Aux armes, notamment. Il y a une vraie fascination toujours pour les armes. On se montre les armes, on se les compare. C'est un vieux motif du western. Et puis, surtout, il va filmer. Enfin, moi, je trouve ça très beau, la manière de filmer ses visages, notamment, qui sont des visages abîmés par la vie ou plein de promesses pour un jeune homme. Mais cette manière de filmer les costumes, on a l'impression, c'est pas souvent que dans un film historique, on a l'impression de voir des vêtements qui ont vraiment vécu, c'est-à-dire qu'ils sont élimés. Alors, il se trouve que beaucoup des comédiens amateurs qui jouent dans le film jouent dans la vie réelle à refaire des batailles de la guerre civile. Donc ils ont ces costumes qu'ils ont l'habitude de porter, en fait, qui ont vécu. Ça, je trouve ça déjà très beau. Et puis je trouve assez intéressant cette manière précisément de filmer l'Ouest en n'y voyant rien. C'est-à-dire que le principe généralement de l'avancée vers l'Ouest, qu'on va faire des longs travelling latéraux où on va découvrir le paysage, le montrer dans sa magnificence. Ici, c'est filmé en longue focale avec des lentilles dépolies, ce qui fait qu'on ne sait jamais, on ne voit jamais rien.
C'est vrai qu'il y a un effet étrange sur les gros plans, notamment, où les bords sont flous, en fait.
Oui, ce sont des lentilles vintage qu'il a récupérées, là encore, qui ne sont pas très nettes sur les côtés, mais qui donnent justement la vraie vision qu'on peut avoir, en fait, quand même dans un grand paysage américain. Bah, quand quelqu'un arrive de loin, on sait pas si ce sont des Indiens, des bisons, des ennemis, on met du temps à comprendre ce qui se passe. Quand il y a une attaque dans la nuit, on est éclairé que par les détonations de vos armes, et vous ne savez pas qui vous tire dessus, vous ne savez pas sur qui vous tirez. Cette confusion générale, je la trouve admirablement mise en scène, parce qu'en fait, au lieu de travailler l'horizontalité, on va essayer d'entrer dans la profondeur de l'image pour voir s'il y a quelque chose à voir derrière. Et il n'y a pas forcément quelque chose à voir, mais il y a quelqu'un.
Mmh. Muriel Joudé, alors quelqu'un peut-être, mais vous étiez perdue, vous ne l'avez pas trouvé, ce quelqu'un.
Ouais, non, c'est vrai qu'ils ont des... Je vais commencer par les trucs positifs, ils ont des super têtes, les acteurs. Voilà, ça va s'arrêter là. Non, c'est juste... pour faire un petit point avec Le Brutaliste, j'ai l'impression, d'un côté, on a un film qui nous dit à l'envers du rêve américain, et en fait, bon, c'est un sujet rebattu. Et là, pareil, c'est-à-dire, en lisant une interview de Minervini, donc il parle beaucoup du fait qu'il voulait vraiment faire un film anti-guerre, et là, je lui dis, bon, on sait déjà que la guerre, c'est mal. Et donc, j'ai l'impression un peu d'un cinéma américain, même si c'est vraiment pas du tout les mêmes économies et tout ça, qui a un peu du mal à... voilà, qui voudrait peut-être commencer à métaboliser le présent, ce qu'a fait Minervini dans ses documentaires, mais voilà, redire que la guerre de sécession, voilà, les soldats sont perdus, c'est une guerre absurde et tout ça, bon, je crois qu'on a compris. Et moi, c'était le premier sujet de mon désintérêt, c'était ça, c'était ok, je vois ce que va être ce geste. Et ensuite, j'ai l'impression aussi que pour lui, faire un film anti-guerre, ça suppose, du coup, il est vraiment arc-bouté sur cette idée, et du coup, ça suppose de supprimer l'idée même de fiction. Et du coup, j'ai eu l'impression d'être en train de le voir expérimenter avec ses acteurs, de voir si la sauce prend et que ça prenait jamais. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un sentiment, c'est pour ça que le film m'embarrasse un peu, c'est que pour moi, il n'a jamais commencé.
Ah oui.
Je ne savais pas, c'est comme si mettre de la fiction, mettre des personnages, commencer à produire tout ça, ça allait produire quelque chose, ça allait rendre séduisante la guerre. Et donc j'ai eu un sentiment de surplace absolue pendant 1h20. Et qu'entre le premier et le dernier plan, rien ne s'était passé. Donc j'ai trouvé ça très suffocant, alors que je vois exactement ce qu'il essaye en train de...
C'est peut-être ça qu'il cherche à faire, oui.
Voilà, c'est ça. Mais je comprends pas où est ma place de spectateur. Et du coup, ça devient là aussi presque une métaphore de ma condition de spectateur face au film. C'est-à-dire que je suis perdue, je ne sais pas où est le début, je ne sais pas où est la fin. Alors peut-être que ça veut dire que le film est réussi si j'ai réussi à me glisser dans la peau de ces soldats. Mais à force de vouloir déconstruire, en fait, le film de guerre, bah, je crois qu'il reste plus rien, quoi, pour moi.
Antoine Guillaume.
Oui, ben précisément, je pense qu'il a réussi ce qu'il voulait faire.
Bon, bah, écoute, non,
parce que c'est effectivement une observation de paysage, d'une certaine façon. C'est une observation de paysage avec des humains qui disparaissent au fur et à mesure du film et qui ne savent plus trop vers où ils veulent aller, quel pays ils espèrent. Il se méfie beaucoup de l'idéologie du film de guerre, de la transcendance, etc. Sauf qu'il va vers là. C'est-à-dire qu'il y a un geste artistique assez radical, pour le coup, qui va vers la disparition de l'homme, vers la disparition du récit. Effectivement, et moi, je trouve ça très beau, je trouve ça très reposant, peut-être parce que je souffre de trop de récits en ce moment, et je trouve toute cette fin enneigée qui rappelle là encore tout un cinéma de Patrouille perdue, de films de... C'est encore un Tot, André de Tot, Hongrois qui avait fait la chevauchée des bannis, qui partait aussi vers un peu cette disparition de l'humain dans le paysage. Et c'est pas pour rien, je pense, que ce film commence par des loups qui se disputent le cadavre d'un animal mort. Et on va vers un cinéma qui, moi, m'intéresse de plus en plus, c'est le cinéma qui se débarrasse des humains.
Bah, super, Antoine va très bien. Non, je comprends, mais après, voilà, pour moi, c'est il y a le André de Tot. Pour moi, c'est le film de guerre a déjà... même pro-guerre, anti-guerre, peu importe. Pour moi, Hollywood a déjà tout raconté. J'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour de ce que pouvait raconter la guerre, de ce que pouvait produire la guerre en termes de mise en scène. Et du coup, je trouve que le film se part un peu d'une sorte de fausse radicalité qui produit pas grand-chose. Et du coup, j'ai plutôt envie d'aller voir le André de Tot ou même voilà, Samuel Fuller ou même les films pro-guerre. Enfin, j'ai eu envie de grands spectacles hollywoodiens après ça.
Après The Brutalist, ça suffisait pas.
Non. On va retourner dans le passé, là.
D'ailleurs, vous avez fait juste un tout petit lien tout à l'heure, Antoine Guillot, entre The Brutalist et Les Damnés, que Les Damnés ont réussi là où The Brutalist a raté.
Oui, mais je pense qu'il parle beaucoup plus profondément de l'Amérique, enfin du rapport que les Américains ont à leur territoire, à leur mythe. Il y a plein de points communs entre les films. Par exemple, le motif de la croix, qui est montré dans toute sa lourdeur dans l'autre, et dans toute sa modestie dans celui de Minervini. Et je pense qu'il touche réellement à ce que c'est qu'être américain. Mais au bout du compte, le brutaliste parle de l'impossibilité d'être américain, hein, d'une certaine façon. Je pense que Brady Corbett a mal à l'Amérique, mais comme beaucoup d'Américains aujourd'hui.
C'était donc Les Damnés de Roberto Minervini, et je précise que Roberto Minervini, justement, sera votre invité, Antoine, dans Plan Large.
Absolument.
Samedi à 14h. Merci Antoine Guillot, merci Muriel Joudet d'être venu dans Les Midis pour parler de cinéma. Toutes les références sont évidemment sur la page des Midis de Culture.